Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler.
I touched my nose too.
Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Marseille est une ville aussi voyante qu'invisible, qui cache ses rides et ses secrets sous d'épaisses couches de fard. Mais si les avenues se font avenantes, si la vieille peau se tend un miroir magique pour se rêver plus belle, personne n'est dupe. Le peuple de Marseille a les mains calleuses, les poings serrés dans des poches vides. Ouvriers, bâtisseurs, ils ont naguère fait fleurir l'industrie. Et si les fleurs sont aujourd'hui fanées, si la terre a désormais avalé les traces des usines et des ateliers, nous pouvons encore inviter quelques fantômes au banquet des marchands de souvenirs. Et quand bien même n'y aurait-il plus grand-chose à voir, le bruit de leurs chaînes résonne encore. Nous vous invitons dans cette balade sonore à en écouter l'écho.
Comme si on pouvait parler à la place.
Vous êtes au point de départ de cette promenade sonore, face au plan de la zone d'Arnavant. Continuez tout droit, sur ce même trottoir, en direction du pont de chemin de fer.
Là, on pourrait s'amuser à se faire les couches archéologiques, c'est-à-dire, première couche, notre contemporanéité, le rond-point, la passerelle, grosse circulation. On descend encore un petit peu. Au bord du ruisseau, de ce côté-là de la passerelle, tu avais la guinguette, pied dans l'eau, pour les gens du quartier. Au niveau de la guinguette, tu avais le grand camp Odo. C'était un énorme camp de transit des Arméniens. Après, on va continuer de descendre. Avec ma petite guinguette, je suis encore au XXe siècle. Avec le camp des Arméniens aussi, je suis arrivé au début du XXe siècle. Et là, sur ce côté-là maintenant de la rue, au 21, zone d'activité Théodora, s'ouvrait exactement au même endroit, parce qu'on voit très bien les piliers, entrée-sortie de masse d'ouvriers. On est en 1940, il y a 800 ouvriers et ouvrières qui sont repérés par les Allemands quand ils font leur inventaire de toutes les richesses industrielles du quartier, ils rentrent dans la grande usine Rocata Sidoro.
Vous arrivez sur le pont de chemin de fer. Arrêtez-vous au milieu du pont.
Je crois qu'il faudrait commencer par se dire que l'histoire industrielle de Marseille passe d'abord par une histoire portuaire. Marseille, c'est d'abord une ville portuaire. Alors, c'est une ville portuaire qui va donc constituer sa puissance, qui est quand même importante à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, sur le commerce, on le sait, sur le négoce. Avec l'avènement de la modernité, le 19e siècle, la révolution industrielle, mais qui commence avant tout à se manifester à Marseille par une révolution des transports, c'est-à-dire que c'est les bateaux à vapeur qui apparaissent et le chemin de fer dont on parle qu'il va arriver, qu'il doit arriver et qui va effectivement arriver, il y a effectivement des nouveaux courants qui animent le transport maritime. Et puis la question de la modernisation portuaire est posée assez tôt au 19e siècle, dans les années 1830, une modernité portuaire qu'on sait nécessaire pour s'adapter aux navires à vapeur qui sont apparus et au chemin de fer qui va arriver. On sent quand même que les Marseillais sont hésitants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas dans cette modernité qui est en train d'arriver. Ça vient très vite. Dès 1860, on est déjà en train de construire les docks. Et les docks, c'est des gens de l'extérieur qui les construisent. Hein. C'est l'État et une grande entreprise privée qui s'appellera la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille, qui est par ailleurs la même compagnie que celle qui amène le chemin de fer, le PLM, avec le fameux Paulin Talabot qui est ce grand entrepreneur qui est le maître d'œuvre de la modernisation réelle du port avec les docks. Les Marseillais voient vraiment leur échapper, leur véritable suprématie sur l'espace portuaire. Et c'est au cours du 19e siècle, sous une impulsion quand même très importante de la Chambre de commerce de Marseille, pour que le port revienne dans les mains des Marseillais et qui est en train de lui échapper avec cette compagnie des docks étrangère. On pourrait même y retrouver des discours à l'époque qui ressemblent aux discours d'aujourd'hui où on parle de privatisation du port, puisque le port appartenait un peu à tout Marseille. Et là, il appartient à une compagnie privée, sur le domaine des docks en tout cas. Et là, la Chambre de commerce s'est battue pour qu'elle obtienne, elle, la concession, c'est-à-dire le même rôle qu'avait la compagnie des docks, sauf que la Chambre de commerce n'est pas une compagnie privée, mais c'est Marseille, c'est l'économie marseillaise. Et parallèlement à ça, la Chambre de commerce fait tout pour que les négociants marseillais deviennent des industriels, se mêlent d'industrie et deviennent des fabricants, c'est-à-dire des gens qui vont non seulement stocker la marchandise comme ils le faisaient, mais qui aussi vont la transformer. Donc les Marseillais sont devenus industriels pour retrouver leur port, pour ne pas perdre le lien avec leur port.
Continuez sur ce trottoir jusqu'au prochain passage piéton, qui vous permettra de traverser et prendre en face la rue Gilbert-Bossy.
Après, il y a Marcel Roncaiolo qui appelait ça le négoce industrialisant. Moi, c'est comme ça que je présenterais le lien. Il n'y a pas une énergie industrielle qui est arrivée et qui a cherché un lien avec le port. Non, c'est parce que les Marseillais ont cherché un lien avec le port qu'ils ont. Ils sont devenus industriels, à leur manière. Mais c'est vrai que les cartes de la ville, quand on regarde les cartes anciennes, hein, qu'on fait ce travail de comparaison de carte à carte pour comprendre l'évolution progressive de la croissance urbaine, on est quand même très surpris de voir, à la fin du 19e siècle, une carte de Marseille où la ville dense est encore vraiment au centre et tout autour du vieux port. Et donc il y a un tissu très lâche tout autour de la ville. Et quand on regarde vers le nord, c'est peut-être là qu'on a le plus d'urbanisation, où la tâche urbaine a tendance à s'étendre, mais quand même, elle est très, très ajourée, si on peut dire. Il y a beaucoup de vide au milieu. Et donc, je pense que cette industrie, oui, qui avait besoin sûrement pour certaines d'extensions, de trouver des terrains disponibles pour construire là-dessus les bâtiments industriels nécessaires, trouver de l'espace où l'industrie avait commencé peut-être en premier à s'y établir, et ensuite, le logement est arrivé derrière, et presque très vite, quoi, enfin.
Que sont devenus nos souvenirs ?
Vous allez arriver en vue d'un passage piéton qui vous permettra de traverser le boulevard Capitaine Gèze.
C'est une grande caractéristique de la ville de Marseille. L'industrie est mélangée, est mêlée à l'habitat. Les quartiers industriels traditionnels, ceux de la fin du 19e siècle, sont des quartiers où on habitait autant qu'on y travaillait.
Que pouvons-nous encore partager ?
Et cette mixité était peut-être aussi due au fait que les industriels marseillais, enfin ce patronat marseillais, n'avait pas de politique particulière de logement. Au fond, elle s'installait, elle prenait place, elle installait son outil, mais pour le reste, elle laissait la ville se faire toute seule.
du souvenir. Notre, leur souvenir.
Traversez en faisant bien attention. Prenez en face la rue Gilbert-Bossy.
Donc, tout ce qui partait par wagon à l'intérieur de cette usine allait directement se faire trier à la gare du Canet, 100 mètres plus loin, et repartait au nord, au sud, à l'est, par où on voulait, quoi, tu vois. Là où maintenant tu as Renault Truck, ce Renault Truck et le lycée, tu sais, le lycée professionnel, hein, qui est juste après, Corot, eh bien, tout ça, c'était Rocatassi.
Roca, Tassi, ouais, Leroux, ouais. Trois associés, ouais. Leur histoire, c'est quoi?
C'est certainement dans l'ensemble des entreprises sur le long du ruisseau des Égalanes, le premier grand consortium industriel. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à trois. Ils arrivaient grosso modo du quartier Notre-Dame sur la rive Corderie, rue Sainte, etc. Et ils sont venus s'installer ici. Ils se sont mis ensemble pour acheter ce grand territoire rural autour de la Mazarade, qui était la Bastide centrale. Et sur ce grand territoire, ils ont construit une usine exceptionnelle. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup chez ces trois-là, c'est que avec le développement de leur invention, la végétaline, ils vont devenir encore plus gros. Et en 50, ils vont créer un consortium de l'huile et savon, consortium international. Mais c'est-à-dire que c'est des Marseillais. C'est d'ailleurs eux trois en premier, plus les Rastoins, les Magnans, les Galiniers, qui se mettent tous ensemble pour changer d'échelle, quoi, au niveau de l'industrie et de la diffusion, et passer à quelque chose qui est de l'ordre d'une internationale de huiles et savons, faite par les Marseillais, fondée par les Marseillais.
En duplex, la partie haute avec une étoile qui découpe le savon. Vous voulez que je vous montre?
Autour de Rocatassi, tu vois, pour essayer de bien prendre la mesure de l'immensité de cette usine. Voilà. Alors, tu vois ici, ce grand bâtiment en Renault. Tu vois le grand bâtiment blanc. Tout ça, ça s'en va comme ça, très loin. Et là, ce qui aujourd'hui est une rue, elle s'appelle Gilbert-Bossy, c'est une rue qui n'existait pas. L'usine, elle est encore en profondeur comme ça. Tu vois bien. Et alors, l'endroit où je te mène, presque en face donc des beaux arbres du parc Billou, qui sont là juste de l'autre côté, de ce qui est encore l'usine, toujours en train de longer l'usine là, c'était à peu près l'emplacement de la Bastide, la Mazarade, qui était la maison de cette grande propriété rurale, la maison de maître.
Au bout de cette rue Gilbert-Bossy, vous tournerez à droite dans l'avenue des Égalades.
Et à peu près à ce niveau, sortait le grand égout qui allait se jeter dans le ruisseau. Ah, la transformation est radicale, hein. Alors, l'industrie construit très vite et la désindustrialisation construit tout aussi vite, sur la ruine de l'industrie.
Cet espace, ça a été le poumon industriel, si j'ose m'exprimer ainsi, de Marseille pendant presque un siècle. L'essor date des années 1860 et le déclin a commencé à date ronde après 1960. Et c'était une zone très éloigné du centre-ville, c'était une zone avec des campagnes, des belles villas de la bourgeoisie marseillaise avec des grands domaines. Et c'est très largement ce qui explique l'intérêt que ça a représenté pour l'essor de l'industrialisation au mi-19e, c'est-à-dire d'abord l'espace. Et puis, bien sûr, la proximité de la zone portuaire, hein, de la Joliette, et sont venues par vagues successives vraiment des activités très diverses, très représentatives de l'industrie marseillaise, c'est-à-dire notamment des activités de transformation de produits importés de l'Empire, par exemple, transformé sur place et réexporté très largement. Alors il y a une autre explication aussi qui est très importante, qui est un peu moins touristique pour comprendre pourquoi beaucoup sont venus ici. C'était pour pouvoir polluer tranquillement, hein. Il faut le dire les choses.
En montant l'avenue des Égalades, vous allez bientôt voir sur votre gauche les établissements industriels Descours et Cabot. Dirigez-vous vers l'entrée.
Et donc là, il y avait un immense complexe, hein. Il y avait trois usines différentes. Et puis alors, on a des cartes postales, parce qu'il ne reste absolument plus rien depuis la fermeture. Mais c'était très impressionnant, parce qu'il y avait une grande allée arborée, il y avait une chaufferie centrale pour tous les établissements du quartier, il y avait une maison de maître, etc. Et, chose assez rare à Marseille intramuros, il y avait des éléments d'une politique paternaliste qui était visible à l'œil nu. On voyait une pouponnière. Alors c'était avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, mais il y avait une restauration pour les ouvriers, il y avait une pouponnière donc, une école pour les jeunes filles, enfin des choses un peu inhabituelles parce que pour l'essentiel, c'était des entreprises, j'ai envie de dire, de production sans trop de soucis de paternalisme y compris, et puis pas de soucis de logement non plus. Ici, dans Marseille Intramuros, on n'a pas construit de cité ouvrière, ils avaient qu'à se débrouiller, si j'ose m'exprimer ainsi.
Tu vois qui a investi ici ? BNP Paribas. Ça fait partie de ces investissements lourds. Il y aura des historiens derrière moi dans quelques années, dans 20 ans. Ils feront un décryptage total des alliances Bouygues, BNP Paribas, Vinci, les nouvelles entreprises qui ont fait leur beurre sur le dos des services publics. À commencer par le groupe Les Eaux de Marseille, où là, tous les camions que tu vois passer, que tu enregistres dans ton micro, camions Ben, qui appartiennent tous à la société des Eaux de Marseille, via des entreprises écrans, entre-temps. Et je les ai même vus vider l'intérieur de leur Ben et de leur petit nettoyeur, là, dans le caniveau du chemin des Égalades. Superbe. Et l'air de rien, on va se retrouver chez Descours et Cabot. Tu vois, des petits bouts de mur qui font bien penser que là aussi, tu avais une propriété rurale, tu vois, avec d'ailleurs la végétation qui va avec. Ah, tu vois, ça, c'est très, très joli. C'est un petit reste, alors. Ce petit reste, il est croquignolé. Tu as une toute petite porte, tu vois, tu as un petit humain qui peut passer, un petit escalier, la largeur d'un humain, hop. Et derrière, tu le vois, le petit escalier de l'autre côté du mur, en métal, qui permettait tout simplement l'accès au ruisseau des Égalades. Donc est-ce pour la pêche, pour nettoyer le ruisseau, pour aller chercher de l'eau? Mais ça, c'est très, 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 très humain et très beau. Et là, le tout petit détail, qui est un petit repère du niveau Lambert. C'est les petits repères qui servent au géomètre. Et là, tu as l'altitude. Et toute la carte de Marseille, la première carte de Marseille, elle est faite avec ces petits repères qu'on appelle du niveau Lambert.
Entrée dans la cour de l'établissement.
19e en ville, à la Joliette d'Escour et Cabot. Mais c'est tout début 20e ici, hein, sur ce site-là. C'est les années 20, tout début des années 20. Alors d'ailleurs, tu vois le très joli petit bâtiment en pierre apparente et petit décor de briques autour des fenêtres. Ce petit bâtiment, c'était le bâtiment d'entrée de gardiennage du temps du d'Escour et Cabot, années 20, leur première installation. Et tout de suite derrière, tu vois s'ouvrir ce très très grand entrepôt. Et ce très très grand entrepôt, lui, il a été conçu par deux architectes dont j'aime énormément l'invention sur ce site. C'est Daba et Dunoyer de Ségonzague.
Rue 9 9% au mois de juin en région PACA, ce qui représente 4830 demandeurs d'emploi supplémentaires. Dans les Bouches-du-Rhône, la tendance se confirme avec une augmentation de 1,7%. Le mois dernier, 112 159 personnes étaient à la recherche d'un travail dans notre département. Sur le plan national, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi est en hausse de 1,3%.
Alors tu vois, regarde comment c'est fait. Tu as le bâtiment blanc, c'est tout ce qui est entrepôt. Très profond, très large, etc. Et le petit bâtiment avec les poteaux bleu ciel, très jolie petite polychromie discrète, ça, c'est le bâtiment des bureaux. Avec des très beaux détails, les volets très modernes, très version esthétique architecturale des années 60, tu vois.
Revenez sur vos pas, sortez de l'usine Descours et Cabot, remontez l'avenue des Égalades. Continuez à monter l'avenue des Égalades en passant sur le trottoir de droite, en faisant bien attention.
Un petit peu plus haut, tu avais des tréfileries, la mine noire, usine de plomb. Tu avais même au 19e, tu avais un énorme haut fourneau. Donc tu es vraiment dans de la sidérurgie lourde à la façon Europe du Nord, quoi, hein. Et là, c'était Mirès qu'il avait créé ce haut fourneau. C'était pour fabriquer tout le métal nécessaire à la marine, en fait. Après, ça descendait direct 10 mètres plus bas et c'était transformé dans les ateliers de conception, de réalisation, de moteurs, de coques, de tout l'appareillage de la marine, nécessaire à la marine.
Dans la métallurgie, il y avait aussi pas mal de plomb.
Oui, bien du plomb.
Avec des gens qui travaillaient dans des vapeurs de plomb.
Mmh, bien sûr, mais ça, t'as mieux. À Saint-Louis, la tréfilerie TLM était sur le site d'une usine de plomb. Et dans l'usine, j'avais trouvé, dans le bureau du directeur, un très vieux petit tableau qui représentait cette usine de plomb. Et tu la voyais tranquillement en train de fumer avec toutes les petites maisons bien serrées de Saint-Louis tout autour. Et ce site-là, il est toxique. Il a été repéré comme
mais
tel.
On n'a pas remarqué que les enfants étaient atteints de saturnisme.
Ah bah, de toute façon, ces choses-là, ça ne se parle pas. Voilà, ça existe peut-être, mais ça ne se parle pas. Les conditions de travail dans ce contexte industriel ici, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais en tout cas ici, le long du ruisseau et dans les quartiers nord, il est sauvage. C'est un contexte colonial, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas particulièrement de bien-être des ouvriers. On ne se préoccupe pas particulièrement de créer la mémoire de l'entreprise, de créer la mémoire de la grande famille, etc. etc. Non. On est vraiment dans un rapport d'exploitation de la matière première, sa transformation et le bénéfice financier que sa transformation crée. Ah, c'est... Là, on est vraiment dans de la zone arrière-portuaire totale. Totale. Et qui est exactement celle que tu vas retrouver en Algérie, en Tunisie, dans l'Afrique noire, qui existe encore d'ailleurs pour certains aspects en Afrique noire, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Continuez à monter l'avenue des Égalades.
L'histoire industrielle, elle est une, parce qu'il y a une interpénétration entre ceux qui travaillaient donc, dans les usines dont tu parlais... Donc Rocat à Sidoroux, bon, à l'U-Suisse, etc. Et en même temps, ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire l'usine à gaz qui a été une des premières, l'usine électrique qui était juste derrière le Cap Pinède, l'ensemble des moulins qui dégringolaient le long de la route nationale de la Viste et qui employaient au moins autant de monde que les grandes industries dont tu parles, parce que la masse d'ouvriers qui partaient travailler, dont mon père qui travaillait à l'usine à gaz des Crottes, le matin, se répandait des deux côtés de la nationale. Donc si tu veux, il n'y a pas d'un côté ceux qui allaient donc à Rocat, à Sidroux, c'était des masses d'ouvriers de 700, 800, 1000 ouvriers jusqu'à 1000 ouvriers, Agricola, etc. Il y avait même les fonderies Groignard, il y avait un certain nombre d'industries, et les autres. Et les autres, en même temps, dans cette masse d'ouvriers qui s'agrippaient, moi je parle de grappes d'ouvriers parce que c'est l'image, c'est ce qui me reste, c'était des gens agglutinés à moindre aspérité des tramways du 26 qui descendaient. Et là, parmi eux, bien entendu, la masse des dockers. Tout est interpénétré. Et lorsqu'il y avait des luttes syndicales, il y avait rassemblement. Rassemblement des ouvriers, de l'ensemble des deux côtés, des syndicats, pour mener les grandes luttes dont peut-être nous pourrons parler.
Sur votre gauche, vous apercevez au loin la raffinerie de Saint-Louis-Sucre. Continuez à monter l'avenue des Égalades.
Alors, avec Saint-Louis, on a un site là, intégralement dédié au sucre, hein, qui est un des plus anciens et des plus importants en France et en Europe pour la canne, certainement. Alors, un des plus anciens, l'usine initiale est construite dans la période 1861-1865, vous voyez. Et si je parle de cette façon, c'est parce qu'il y a eu notamment un incendie qui a entraîné une reconstruction complète, et puis évidemment l'apparence d'aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec l'usine initiale. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'on y fabrique toujours du sucre, et que ça a été une usine, bon, ça représentait, de mémoire, un tiers des exportations françaises, rien que l'usine Saint-Louis-Sucre. Hein, c'était vraiment une entreprise très puissante. Alors, la matière première, c'est-à-dire le sucre de canne, venait d'un peu partout, mais en particulier de Guadeloupe, en particulier aussi de Madagascar, où Saint-Louis-Sucre avait créé des filiales, du Maroc aussi, où il y avait des filiales. Bon, il drainait de tous les territoires de l'ex-Empire, et évidemment, en particulier, de nos îles à sucre. Alors, c'est une entreprise donc, qui a été longtemps la typique de l'industrie marseillaise, telle qu'on l'a définie dans les livres. Et dans les, hein, on importe une matière première, on la transporte et on exporte. Alors, il y a eu des périodes fastes. Hein, la guerre de 14-18 a été une période faste. Il y a eu la concurrence croissante de la betterave. Et maintenant, à l'échelle mondiale, hein, l'économie du sucre qui est complètement globalisée, est dominée très largement par les cannes du type Brésil, un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et ça fait, tout le monde le sait, c'est une notoriété publique, nombreuses fois qu'on s'interroge dans la région sur l'avenir de l'entreprise.
On voit en tout cas avec les huileries et avec les sucreries que ces industries de transformation, elles sont très directement liées avec l'Empire colonial.
C'est très clair, et c'est bien, tout à l'heure en introduction, je vous disais que l'apogée de l'industrie marseillaise, c'était datron 1860-1960, ce qui correspond à l'apogée aussi de l'Empire et le déclin. Les années 60, c'est les indépendances. Non, la corrélation est très forte, hein, en ce qui concerne l'industrie traditionnelle marseillaise. Elle s'éteint, pour l'essentiel, pour beaucoup, disons, avec la fin de l'Empire et les indépendances. Alors, il y a aussi un point que je n'ai pas abordé sur Saint-Louis. C'est d'ailleurs un regret pour moi. C'est qu'on connaît encore trop mal l'histoire des relations sociales dans ces usines. Concrètement, il y a des sources, hein, des sources de police, les grèves, les manifestations. On connaît vraiment très mal. En schématisant énormément, on va dire que dans la plupart des cas, les industries marseillaises étaient basées, fonctionnaient sur des rapports sociaux extrêmement durs. Bas salaire, absence d'avantages. Et là, il y a une explication qui n'est pas morale, c'est pas parce que les patrons étaient plus méchants là qu'ailleurs. C'est tout simplement, c'est un marché, le marché de la main-d'œuvre, et que grâce à l'Italie de la misère, d'abord en premier lieu, la main-d'œuvre était tellement abondante qu'il n'y avait pas besoin de prendre un certain nombre de luxe de précaution pour la conserver.
Continuer à monter l'avenue des Égalades, mais passer sur le trottoir de gauche.
Ce n'était pas le travail qui manquait au lendemain de la libération. Je me souviens, ça grouillait jusqu'au Cap Janet.
Juste après le bâtiment de Plateforme des Égalades, vous verrez un trou dans le grillage qui vous permet de monter au sommet du terril de Bourrouge.
Il n'y avait pas à se casser la tête. Être embauché chaque matin, c'était normal. Il n'y avait pas assez de tracteurs, de grues, de bras pour tout ce boulot. C'était dur, bien sûr. Mais nous espérions aller vers quelque chose de grand. Ça n'a duré que 2 ans, malgré nous. Et puis le travail a changé. Et en même temps, il s'est fait plus rare. On vient à l'embauche sans être sûr. De plus en plus de mauvaise humeur. Il faut attendre et revenir demain. Parfois, nous travaillons 4 jours dans la semaine. Nous oublions un peu nos peines. La semaine suivante, c'est le chômage. Et les soucis reviennent. On nous appelle les travailleurs intermittents. Des chômeurs intermittents.
Montez au sommet du terril de Bourrouge. N'ayez pas peur, allez-y. Une fois grimpé sur le terril, cherchez le point de vue qui vous convient pour regarder le paysage.
Bien, Saint-Louis, on a tout l'ensemble de la Suisse, qu'il en reste.
D'accord.
Bien, alors, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle le tas de Bourrouge. Alors, le tas de Bourrouge, ça vient de la fabrication de l'alumine, qui s'est réalisée de façon continue entre 1906 et 1968 environ. Alors, le pourquoi, il est d'abord sur les gisements de bauxite, puisque pour faire de l'alumine, on utilise la bauxite, ce minerai rouge qu'on trouvait en abondance dans le Var, autour de Brignoles. Donc la bauxite est amenée par voie ferrée, transformée en alumine, et l'alumine, c'est la matière première de l'aluminium. Et donc, après Gardanne, qui a été construite en 1893, quand le procédé qui permet de fabriquer de l'alumine, c'est-à-dire le procédé Bayer, un chimiste autrichien, tombe dans le domaine public, aussitôt, les concurrents construisent à Marseille 2 autres usines. Une dans la vallée de l'Yvonne, c'est la Barasse, et l'autre, les Suisses, à l'U-Suisse, ici donc à Saint-Louis-les-Égalades. Jusqu'en 1913, bon, les 7 premières années, c'était la plus grande usine d'alumine du monde. Et le lignite, c'est-à-dire le charbon nécessaire, parce que ça consomme beaucoup de charbon, le procédé Bayer, il arrivait là, derrière, par le puits d'extraction de la galerie à la mer.
Le dessin de la galerie de la mer a été calculé par les ingénieurs géologue de la mine, mais en accord avec des grands industriels marseillais. C'est-à-dire à quelques mètres près, on l'a un tout petit peu détourné, de façon à ce qu'elle passe en tangente le long de l'usine de sucre de Saint-Louis, mais aussi un tout petit peu plus en amont, à Alu-Suisse, la grande usine d'Alu-Suisse, pour fabriquer de l'aluminium. On ne sait pas ça. Et Marseille a été une énorme usine.
Redescendez du terril pour revenir sur vos pas, en redescendant l'avenue des Égalades, d'où vous venez. Si vous voulez faire une petite pause et profiter du paysage, mettez votre lecteur en pause et reprenez la lecture en redescendant.
Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que les Bourrouges ? Alors, c'est simple. Quand on fabrique de la bauxite, de l'alumine, on met de la bauxite et de la soude. On casse et on fait bouillir dans des autoclaves. À l'issue du processus, on sépare l'alumine par filtrage des produits inutiles. C'est quoi ? Principalement du fer, des déchets divers, des minerais rares issus de la bauxite, et puis aussi, en quantité plus ou moins importante, de la soude qui avait été utilisée dans le procédé. Donc on sépare par filtrage, et d'un côté on garde l'alumine, qu'on fait sécher ensuite et qui devient une poudre blanche, pour être expédié à l'usine d'aluminium, et de l'autre, on a ce qu'on appelait les Bourrouges. En tout cas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour une tonne d'alumine fabriquée, on produit une tonne de Bourrouges. Donc ici, sous nos pieds, cette colline qui domine Marseille d'une trentaine de mètres sur 6 hectares, ça correspond à peu près à la quantité d'alumine produite par l'usine Alu-Suisse jusque la fin des années 50. Parce que là, peut-être tout simplement parce que le site était saturé, ils ont déversé en fait la vitrole à proximité du stadium. On a là une parcelle de 6 hectares. Alors, ça pose, et vous imaginez bien, un problème environnemental très sérieux, d'autant qu'il y a une procédure judiciaire qui est encore en cours. Donc, en tout cas, il y a plusieurs explications. Pour certains, le sol est trop meuble pour pouvoir bâtir, du fait que c'est des résidus. Pour d'autres, il y a une pollution des sols qui la rend impropre. En tout cas, pour les troisièmes, parce que l'hypothèse était avancée de venir et de retirer tout pour réutiliser les 6 hectares, pour l'instant, c'est apparu comme économiquement non rentable. Et donc, on a cette situation invraisemblable au cœur d'une zone d'activité plutôt dynamique, hein, où il se passe plein de choses, au cœur de zones d'habitat, hein, de l'Orme, etc. En plein cœur de Marseille, on a là cette colline, pour un temps indéterminé. Vous voyez, ce point me paraît important parce que il permet d'avoir une vision un peu différente de l'histoire industrielle de la région. Là, vous voyez, il y a un système industriel régional intégré, la soude, l'alumine, les savonneries, etc. Ce n'était pas pour l'exportation, ce n'était pas du négoce colonial, contrairement à ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est un système différent qui montre la variété et aussi le dynamisme de ce système industriel, puisque là, on transformait des matières premières locales, non pas pour repartir par la mer, mais pour partir là vers l'Europe du Nord, en ce qui concerne Alu-Suisse.
Alu-Suisse, c'était une usine
beaucoup trop enclavée au bord du ruisseau Caravelle. Les déchets étaient rejetés sur place. C'était les boues rouges, les fameuses boues rouges d'alu suisse, et qui s'accumulaient. Et donc, je crois que petit à petit, ils ont été étouffés par leur propre production.
Continuez à descendre l'avenue des Égalades, passez la cité de la Visitation, jusqu'à croiser, sur votre gauche, le boulevard Frédéric Sauvage.
Dis Roger, tu veux bien verser quelque chose pour l'aide au docker en grève? Combien tu donnes?
Je verse 200 francs.
J'ai une liste de souscription pour les dockers. Tu verses quelque chose?
Hé, copain, nous devons les aider de toutes nos forces, les dockers. Tu comprends? Si nous versons, dis donc, tu verses quelque chose pour les dockers?
Oui. Bien, serre-toi, prends l'argent dans ma poche.
Je prends 1000 francs.
Oh, doucement, hein, pas d'histoire, dis. Ton pas est suffoché, ouais.
Allez, merci.
Salut.
Prenez sur votre gauche le boulevard Frédéric Sauvage.
Les conditions ouvrières de usine à gaz. Mon père partait, était conducteur de chaudière, a enfourné du charbon dans les chaudières, puis après, tout s'est fait mécaniquement, automatiquement, donc à contrôler. Les conditions étaient un peu meilleures, mais je me souviens que mon père me disait, le premier jour où je suis arrivé à l'usine à gaz, on m'a mis justement à charger des camions du mâche-fer, des déchets de la combustion de la houille, ou du charbon, c'est pas toujours de la houille, de la lignite souvent, du charbon de Gardanne, et à la fin de la journée, j'ai dit j'abandonne. Il n'en pouvait plus. Donc, travaux très durs. Les raffineries de sucre, un peu moins dures, autant que les huileries aussi, quand même un petit peu moins dures. Voilà, donc les conditions de travail étaient très variées. Mais n'oublions pas que la durée de travail était de 10 heures. Donc, conditions très dures, conditions assez dures de travail, mais c'était assez variable. Conditions d'habitat étaient quand même très précaires. Donc, l'exemple de ma famille, où nous pouvions nous entasser à 10 dans 2-3 pièces parfois, c'était généralisé. J'en parle dans un de mes romans, qui est La colline au Genêt, et c'est ce qui m'est resté le plus fortement gravé, un sillon profond dans la mémoire, c'est les grèves de 1947. Grèves de 1947, ça avait été des grèves très très dures, pour réclamer de meilleures conditions de vie, de meilleures horaires. Et là, je me souviens donc que les ouvriers étaient sortis en masse. Ils avaient même renversé le tramway au travers de la route, des pierres, etc. Ça avait été très dur. Et j'avais vu monter la cohorte de camions de CRS, de gardes républicains, de GMR à l'époque, c'était pas les CRS, et qui allaient mettre un peu d'ordre dans la bas et matraquer un peu tout le monde. Et puis j'ai vu ensuite disparaître quelques voisins qu'on n'a plus revus qu'au bout d'une semaine ou deux, tuméfiés, après des interrogatoires musclés à l'évêché. Il faut un autre souvenir aussi, dans ces grèves, il faut dire, puisque tu parlais de Rocata Sidro tout à l'heure, il est resté dans la mémoire populaire une dame, une bonne sœur, je crois une mère supérieure, qui s'occupait de la cantine de Rocata Sidro, qui pendant ces grèves de 47, avait pris sur elle de fournir la soupe aux grévistes. Les grévistes qui étaient rouges, quoi. C'était les rouges, mais les rouges, point levé, hein. C'était, n'oublions pas, l'époque où dans le secteur, le Parti communiste français faisait une moyenne de 70 à 80% à chaque élection, ici. Eh bien, elle servait la soupe populaire aux ouvriers en grève.
Il y a eu un Marseille rouge.
Ben, ce Marseille rouge, il est là. On en parle. Bon, si on remonte plus loin, bon, il y a eu le Marseille rouge des grandes grèves sanglantes à l'Estac, des Italiens et tout. Mais le Marseille rouge était ici. Avec les grandes batailles contre le gangstérisme de l'époque, sabianisme, doriotisme, sabiani, carbone, spirito, qui tenaient, eux, le haut du pavé, puisque Sabiani était adjoint du maire Ribot à Marseille. Je crois que le Marseille rouge est venu des luttes ouvrières et de la lutte pour un Marseille propre, qu'on appelait à l'époque Chicago dans la France, etc.
C'est toujours la même chose.
Sur le boulevard Frédéric Sauvage, après le virage, vous allez voir un panneau indiquant 31 Parc des Égalades. Là, vous tournerez à droite et ensuite contournerez les établissements Picto pour rentrer dans la zone industrielle d'Arnavant.
Sur justement l'évolution de cette zone industrielle, de ces grandes usines, est-ce que tu as souvenir du moment où ces usines ont disparu et du contexte de cette disparition ?
il n'y a pas eu de fermeture brutale. Voilà. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas eu de mouvement d'ampleur contre la fermeture des usines. Il y a eu des protestations, des luttes syndicales, mais donc, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait, j'allais dire, en douceur. N'oublions pas que l'industrialisation des quartiers du Nord de Marseille a eu son ère de prospérité à partir de la fin du 19e, la colonisation, n'oublions pas, y compris le sucre, y compris les cannes, l'huilerie, l'arachide, qui venaient de l'exploitation des colonies. Bon, à un moment donné, il y a eu donc ce délitement avec la décolonisation, une reconversion de tout type, et le marasme du port a suivi cette désindustrialisation. Donc tout a été lié, ça a été en cascade.
Le bain, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps.
Derrière les établissements Picteau, traversez les barrières, vous entrez dans le lotissement industriel et continuez toujours tout droit.
Je travaille en 4-8. À la Rodiaceta.
Moi, je crois qu'il y a une part de vérité, suivant les historiens, moi je ne suis pas historien ni sociologue, du manque de faculté d'adaptation des grandes familles bourgeoises de la bourgeoisie marseillaise, qui avaient fait leur fortune sur la tradition de transformation de matières premières coloniales et qui n'a pas su s'adapter. Je crois que la grande bourgeoisie marseillaise était restée un petit peu sur ses rails de transformation, alors huilerie pour l'essentiel, savonnerie, etc., qui était la tradition historique de Marseille, et n'a pas su se réadapter aux nouvelles conditions d'industrialisation, aux nouvelles techniques. Il me semble que c'est une part de vérité. J'en avais discuté assez longtemps avec Émile Temim, qui faisait autorité en la matière et qui convenait de ça. Des raisons politiques aussi, puisque y compris les élites marseillaises de l'époque, je crois, n'ont pas aidé à pousser.
Continuer dans l'allée, toujours tout droit.
Parallèlement, ce n'était pas la seule raison, l'économie s'était transformée, le type d'économie, le type d'industrie s'est transformé un petit peu de partout, avec la modernisation bien entendu, modernisation qui n'a pas su être conduite à Marseille. Et pour ce qui est de nos quartiers, c'est à partir de ce moment-là donc ces friches industrielles se sont dégagées et heureusement qu'on a eu donc les PME qui petit à petit se sont implantées comme Arnavant ou Artisanor ou dans le bassin de Séon avec la ZAC de Séon. Moi je crois que ça répondait à un besoin. Le choix me paraît très judicieux.
On a vu que de ces usines, de ce patrimoine industriel du XXe siècle, aujourd'hui il ne reste pas grand-chose. Voilà. Alors sur l'importance aujourd'hui de conserver ce patrimoine industriel, cette mémoire industrielle, non seulement les murs des usines, mais aussi la mémoire des ouvriers.
C'est fondamental. Et il est navrant de voir que lorsque les usines ferment, il n'en reste plus rien.
Continuez toujours tout droit jusqu'à la sortie.
Il n'y a pas eu, je crois, suffisamment d'attention qui a été portée assez tôt à ce patrimoine-là, en tant que patrimoine. Peut-être aussi que si cette attention a pu faire défaut, ça tient aussi au fait que la culture industrielle marseillaise est, comme on l'a dit, une culture d'opportunité et pas vraiment une culture d'ancrage, avec un ancrage très profond sur la culture économique, sur la culture des savoirs économiques. D'autant plus que on pourrait peut-être rajouter sur cette question de la culture économique marseillaise que les maires de Marseille qui se sont succédés, je pense en particulier à Gaston Defferre et je crois aussi Jean-Claude Gaudin, on convient que c'est des gens qui n'avaient pas une passion pour la question de l'économie en tant que d'une manière personnelle. Et que c'est des gens qui ont délégué cette pensée autour d'eux. Et ils ont été beaucoup plus attentifs à la gestion des gens, la gestion politique, plus politique de la ville. Mais ça compte sûrement dans une histoire d'une ville, cette difficulté qu'a eu Marseille à se construire une identité économique à la fin du XXe siècle, après tout ce passé assez glorieux. Tient sûrement à ça. Alors, du coup, effectivement, le patrimoine industriel Il a peut-être apparu surtout aux yeux des Marseillais comme une vieille chose qu'il fallait maintenant faire disparaître pour passer à autre chose. Et donc, les choses vont ensemble. Dans les grandes villes du Nord, dans le Benelux, enfin dans les villes comme la Hollande, l'Allemagne, mais même dans les villes du Nord en France, les villes industrielles de tradition industrielle, où l'industrie est beaucoup plus ancrée dans la culture, le patrimoine a été reconnu beaucoup plus tôt. Et on a su garder des témoignages très, très significatifs et en investissant beaucoup pour les faire exister, leur trouver des reconversions fonctionnelles, etc. Alors à Marseille, non, pas tellement. Et du coup, on a perdu beaucoup de ce patrimoine, je pense. Il est parti très vite, un peu comme un balayage, quoi, comme s'il était temps de tourner les pages. Donc le devenir du patrimoine industriel, il est, je crois, lié à cette absence d'une véritable culture et d'un respect. Est-ce qu'il faut dire un respect ? C'est peut-être un peu trop fort, mais il manque une sorte d'intérêt profond que les Marseillais auraient eu pour l'industrie. Cette industrie, elle était là, elle a fait son travail à un moment donné. Mais on trouve ça aussi à propos des bastides sur la banlieue marseillaise, ces maisons de campagne que les Marseillais avaient su bien construire au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui, dans les années 80-90, 70-80-90, et encore aujourd'hui, je pense, se démolissent très facilement. Alors on se dit, mais comment ça se fait que ce patrimoine qui est quand même si important quand on regarde la place dans l'histoire de la ville est si peu considéré? Et on se rend compte que même à l'époque des Bastides, quand elle prospérait, que la banlieue de Marseille était une banlieue rurale, eh bien elle se vendait, elle s'achetait très souvent. C'est-à-dire que les familles n'y étaient pas attachées comme à des châteaux, comme on verrait ça en Île-de-France, avec une transmission de génération en génération. Non, c'était des affaires. Eh bien, l'industrie, je crois qu'elle a subi le même sort. L'industrie était une affaire dans un temps donné. On n'en parlait plus, c'était fini. Et aujourd'hui, il faut vraiment se battre beaucoup, militer beaucoup pour convaincre qu'il y a un patrimoine à conserver. Et c'est pour ça que vous vous promenez là, au milieu d'un espace où les traces sont devenues presque infimes parfois. Et on se dit, mais c'est incroyable que ce soit si effacé. Bon, alors, c'est peut-être une qualité qu'elle a, cette ville, de vouloir effacer pour reconstruire autre chose. En même temps, elle n'est pas non plus la ville la plus dynamique pour construire et reconstruire. Mais elle est pressée à effacer, ça c'est peut-être vrai. C'est une ville effaceuse de son histoire, beaucoup. L'histoire, c'est pas la mieux lotie à Marseille. La question de l'histoire, avec tout ce que l'histoire peut apporter à aider à faire le présent. Enfin, surtout, comprendre que l'histoire, c'est le présent. C'est pas hier, c'est maintenant. Enfin, ça, c'est vraiment très important. Ouais.
Vous arrivez en vue de la barrière de sortie du parc d'entreprise et à la fin de cette balade sonore. Sur l'avenue Capitaine Jez, à 150 mètres à droite, vous retrouverez votre point de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un peu de repos sur les pelouses du parc Billou. Au rond-point, prenez à droite la rue de Lyon et remontez-la sur 200 mètres.
Ne rien dire. Ne rien entendre et ne pas voir.
Au cours de cette promenade sonore, vous avez pu entendre les voix, par ordre d'apparition, de Christine Breton, conservateur du patrimoine honoraire, René Borbet, architecte, Philippe Mioche, historien,
comme si rien n'existait,
et Lucien Vassal, écrivain, ancien maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Réalisation, Xavier Thomas, Radio Grenouille. Remerciements à Aude Vandenbroek, à Cap Honor Entreprendre, aux établissements Décour et Cabot, et à la savonnerie du midi.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Services numériques innovants du ministère de la Culture et de la Communication.